parler aux utilisateurs, développer, tester, livrer. Et c'est ça qui crée de la valeur. Toute la prédiction du futur est une perte de temps. Le futur n'est foncièrement pas prédictible et donc il faut apprendre à agir dans l'incertitude. Et en fait, le backlog n'est pas une projection du futur. Normalement, le backlog, c'est un process qui nous dit ce qu'on doit faire aujourd'hui.
Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le voit bien et que vos clients aussi.
Bonjour à tous, bienvenue sur Because, je suis Sofiane Ouarab et aujourd'hui je suis accompagné de Frédéric Le Guédois. Salut Frédéric.
Salut Sofiane.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de te présenter pour nos auditeurs.
Alors, de manière pas très originale, coach agile dans une entreprise qui s'appelle Ex Novo. J'ai notamment contribué à la communauté agile par des conférences, une cinquantaine de conférences, dont une dizaine de keynotes. Dont une qui a eu un certain retentissement qui s'appelle « Cessons les estimations » et qui a permis d'ouvrir le débat sur le sujet. Et donc aujourd'hui, je fais de l'accompagnement agile dans différentes organisations. Et puis, j'ai aussi monté une formation qui s'appelle « Par-delà les estimations » dont le but est de réfléchir comment est-ce qu'on fait si à un moment on décide de changer un peu nos pratiques.
Alors justement, moi, c'est grâce à cette conférence sur « Cessons les estimations » que je t'ai connu. Et c'est une question que je me posais aussi là ces derniers mois sur les dérives, si je peux dire, de Scrum au sein des entreprises. Et ce que je souhaiterais faire, c'est de revenir peut-être aux bases de comment était la gestion de projet au sein des entreprises il y a encore 15, 20 ans, du cycle en V, que moi, je n'ai pas trop connu. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu à nos auditeurs les plus jeunes comment se faisait globalement la gestion de projet en cycle en V il y a 15, 20 ans dans les entreprises?
15, 20 ans et plus, hein, puisque finalement, le développement logiciel s'est rentré dans le monde industriel dans les années 70. Donc maintenant, on a un demi-siècle de retour d'expérience sur le sujet. Alors moi, j'ai un peu connu ça. Toi, tu en parles au passé et tu as de la chance. Faut savoir que ça existe encore dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. L'idée principale derrière les méthodes classiques, c'était de beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir avant de passer à l'action. Donc des longues phases d'études avant d'écrire la moindre ligne de code, considérant que écrire du code, ça coûtait très cher et que plus on allait réfléchir, moins on allait faire d'erreurs. Et donc, ça voulait dire qu'on pouvait réfléchir pendant des mois, parfois des années, faire des très longues études sur un sujet. Quand je suis taquin, je dis qu'il aboutissait souvent à l'idée qu'il fallait faire une autre étude derrière pour qu'il y ait zéro risque. Et puis avec beaucoup de formalisme, donc beaucoup de documentation, l'idée aussi étant que plus on va pondre du papier, plus le risque va se réduire, et donc des approches finalement prédictives qui s'appuient sur la prédiction du passé, du futur, et extrêmement formelles, qui accordent beaucoup de place à la forme plutôt qu'au fond. Et à la fin du siècle passé, au milieu des années 90, il y a différentes méthodes qui ont émergé, qu'on a appelées dans un premier temps les méthodes légères. C'était Scrum, c'était l'extreme programming, c'était ce genre de choses. Méthodes légères dans le sens où elles proposaient un fonctionnement où il y avait moins de formalisme. Et donc avant de s'appeler les méthodes agiles, c'était les méthodes légères. Et l'idée, c'était d'aller beaucoup plus rapidement dans l'action, d'aller expérimenter des choses, d'être beaucoup plus dans l'empirisme, dans la découverte, dans la co-construction avec des utilisateurs. Le cycle en V a beaucoup de problématiques. Si on fait un cahier des charges pendant 6 mois, c'est déjà qu'on considère que le besoin ne va pas changer durant 6 mois. Ça, c'est une vraie problématique. Si on part sur un cycle de développement de 2 ans, c'est-à-dire qu'on va prendre le besoin des utilisateurs et au bout de 2 ans, on va leur livrer des choses, il y a une très forte probabilité, pour ne pas dire une quasi-certitude, que quand on livre, ça ne correspond pas du tout à leurs attentes. Parce que pendant 2 ans, il n'y a pas eu du tout ces échanges et ces interactions. Donc voilà à peu près la grande différence. La première est une méthode. Les cycles en V, c'est de la méthode prédictive avec des cycles longs, très longs, et une analogie qu'on a souvent pris au bâtiment, le cahier des charges on a pris au bâtiment, Les architectes, on a pris ça au bâtiment. On s'est dit, s'il y a besoin d'architectes dans le monde du bâtiment, on doit en avoir besoin dans le logiciel. Bon, pourquoi pas. On a même pris les assistants à maîtrise d'œuvre, les assistants à maîtrise d'ouvrage. Et donc, en fait, on a pris tous les raisonnements du bâtiment en se disant, un logiciel et un bâtiment, c'est la même chose. Ben, peut-être pas, peut-être que ça n'a même strictement rien à voir, et qu'on s'est peut-être fourvoyé dans cette métaphore, et que, en fait, il n'y a probablement pas une manière universelle de gérer les activités. Il faut peut-être gérer les activités selon la nature de l'activité. Donc peut-être que la manière de gérer la construction d'un bâtiment, c'est pas la même chose que gérer du logiciel, c'est pas la même chose que gérer un garage automobile, et c'est pas la même chose que gérer un hôpital. Dans tous les cas, il y a de la gestion, mais peut-être qu'il faut bien comprendre ce qu'on est en train de gérer pour avoir une gestion qui soit adaptée.
Ouais, j'ai le sentiment, depuis que je suis dans le développement, depuis quelques années, que les entreprises donc, sortent de plus en plus du cycle en V pour arriver à une gestion agile, entre guillemets, qui est plus une gestion par Scrum uniquement, quasiment. Moi, en tout cas, par retour d'expérience, j'ai principalement fait que du Scrum dans les entreprises. Et je constate quand même qu'il y a pas mal de dérives, qu'on s'éloigne de plus en plus du manifeste agile et même du Scrum Guide au fur et à mesure que j'ai d'expérience dans le développement. Notamment, par exemple, si on peut parler d'estimation, j'ai jamais lu dans le Scrum Guide des estimations. Pourtant, moi, à chaque fois que je suis en mission, je fais des estimations.
Alors, la question, c'est est-ce qu'on dérive de plus en plus ou est-ce que ton œil est de plus en plus aigu et tu perçois de plus en plus ça ? C'est aussi une possibilité. En fait, la transformation agile, il y a plusieurs raisons d'y aller. La première et la mauvaise raison, c'est parce que c'est à la mode. Voilà. Tout le monde y va, donc on y va. Donc c'est pour ça que toutes les entreprises vous disent on est agile. Et donc dans ce cas-là, on assiste à une transformation linguistique. C'est-à-dire qu'on voit dans Scrum qu'il y a un PO, on prend le chef de projet, on dit maintenant on est agile, donc voilà, maintenant tu seras PO. Voilà, c'est bien. Et puis avant, on faisait des estimations. Alors maintenant, on fait des estimations agiles. Voilà, on a mis agile derrière. Et puis avant, on avait un cahier des charges et on mettait 18 mois à faire le cahier des charges. Et puis maintenant, on fait de l'affinage de backlog qui dure 18 mois. Et donc, en fait, on a gardé exactement les mêmes pratiques, la même culture, mais on a juste changé le vocable. Et donc ça, c'est forcément, la communauté Scrum te dira, c'est du Scrum but, c'est-à-dire c'est du Scrum, mais il y a une exception chez nous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas vraiment du Scrum. Donc ça, c'est quand même la première dérive. Après, moi, je suis très taquin avec Scrum. Alors, j'ai de très bons contacts avec des gens qui sont des fervents défenseurs de Scrum, mais moi, j'aime bien taquiner un peu Scrum. Scrum, c'est parfaitement répandu dans les entreprises, parce que Scrum est parfaitement compatible avec une culture prédictive et culpabilisatrice. Alors, les gens vont me dire, mais non, mais Scrum n'a pas été écrit comme ça. Oui, mais il est compatible avec ça. C'est-à-dire que Scrum permet de demander aux équipes de dev de prendre des engagements sur 15 jours, ou sur plus, ou sur moins, ça dépend. Et du coup, on est toujours dans du prédictif, et on est toujours dans du culpabilisateur, et on est toujours dans une source de motivation qui va être la peur, la crainte, le bâton. Alors on va dire, le Scrum Guide n'a pas été écrit dans cet esprit, certes, mais dans des cultures qui sont foncièrement pas agiles, Scrum s'adapte très bien. Alors il est probablement déformé au passage, mais en tout cas, il est applicable. Et donc, il y a probablement cette limite au niveau de la transformation en fait, des organisations. Et à mon sens, il y a plusieurs niveaux de maturité, je vais l'exprimer comme ça, au niveau de l'agilité. Le premier, c'est de se dire, OK, on va prendre une méthode, comme par exemple Scrum, qui pour moi a un immense, elle a d'immenses mérites, Scrum. Déjà, ça propose quelque chose qui est relativement basique à appliquer. Et donc, des gens qui ne connaissent pas trop, ils peuvent juste appliquer les différents rituels, mettre en place les différents rôles. Ils n'ont pas forcément compris ce qu'il y a derrière, mais peut-être qu'avec la pratique, ils vont le comprendre. Et donc, en fait, il y a déjà cette porte d'entrée qui, je trouve, est très intéressante dans des cultures classiques où on prend le Scrum Guide, si on se donne la peine de le lire, parce qu'encore faut-il le lire, et qu'on le met en place, et déjà, y a quelque chose qui est assez accessible quand même. Le deuxième gros avantage de Scrum, encore faut-il bien l'appliquer, c'est que normalement, on va passer sur des cycles courts. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des cycles de 2 ans. Normalement, à la fin du sprint, on livre. Bon, alors après, il y a des gens qui vont vous dire, mais comment je fais pour développer ma fonctionnalité sur X sprint? Mais en fait, normalement, ça nous apporte ça. Donc en fait, Scrum apporte ça. Donc finalement, c'est un premier niveau d'agilité, c'est-à-dire on dit voilà, on veut expérimenter une nouvelle méthode. D'ailleurs, la plupart des gens à ce moment-là parlent de la méthode agile, parce qu'ils pensent qu'il n'y en a qu'une seule. Voilà. Le deuxième niveau qu'on entend souvent dans la communauté agile, c'est de dire que l'agilité, c'est pas une méthode, c'est une culture. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Ça veut dire que face à un problème, on a un raisonnement, des réflexes intellectuels qui sont communs, qu'on va pouvoir partager dans la communauté agile. Alors, parfois, on s'écharpe sur des points de détail, mais souvent, quand même, on est vraiment d'accord. Je donnerai un exemple typique d'une culture agile ou d'une culture pas agile. Il y a un échec sur une livraison. Il y a un problème sur une livraison. Dans une culture classique, tu vas te dire, il va falloir que je sécurise mes prochaines livraisons, donc je fasse plus de tests, que je prenne plus de temps à réfléchir, etc. Donc je vais espacer mes livraisons. C'est-à-dire que face à cet échec de livraison, je vais espacer mes livraisons. Culture classique. Culture agile, j'ai un échec de livraison, je vais livrer plus souvent. Alors effectivement, après avoir accru un peu le nombre de tests, etc. Mais pourquoi je vais livrer plus souvent? Parce que si je livre plus souvent, non seulement je vais avoir un plus petit périmètre, donc je vais réduire mon risque, mais comme je vais livrer souvent, c'est quelque chose que je vais parfaitement maîtriser, donc je vais réduire mon risque. Et donc face à une même problématique, eh bien là c'est vraiment une culture différente, selon qu'on soit plutôt dans une approche agile ou plutôt dans une approche classique, qui va nous guider vers l'un ou l'autre. Autre exemple, j'ai un problème avec un autre collectif, avec une autre équipe, culture classique, je vais envoyer des mails pour avoir une trace écrite pour trouver le coupable à la fin. Culture agile, j'ai un problème avec une autre équipe, on va aller se parler. On va mettre en place des points réguliers pour apprendre à se connaître et pour trouver des solutions ensemble. Et donc là, tout ça, c'est éminemment culturel. Donc le premier niveau, ça serait finalement méthodologique. Le deuxième niveau, il est plus culturel. Et puis pour moi, il y a un troisième niveau. C'est quasiment un niveau philosophique, en tout cas c'est une manière de percevoir le monde. Nietzsche disait, si ton œil était plus aigu, il virait tout en mouvement. Ça veut dire que si je perçois que je suis dans un monde en constant changement, qui bouge en permanence, où les contraintes changent en permanence, où tous les jours j'apprends des nouvelles choses sur mon équipe, sur mon produit, sur mes utilisateurs, sur les parties prenantes. Si je vois que je suis dans un monde qui fluctue énormément, il va falloir que je trouve un moyen d'agir efficacement dans cette incertitude. Et donc du coup, je ne fais pas le choix d'aller vers l'agilité, ça s'impose à moi parce que je perçois le monde comme ça. Si je perçois le monde comme étant stable, immuable, qui ne bouge pas, alors je n'ai aucune raison d'aller vers ça. Et donc à mon sens, en fait, il y a un moment où on perçoit les choses de manière un peu différente. Mais c'est très compliqué de transmettre cette perception d'un monde qui change en permanence. Et donc finalement, le fait de commencer par un Scrum Guide, on le met en place, et puis on commence à travailler avec ça, finalement pour acquérir cette culture et après cette vision du monde, elle est tout à fait intéressante. Le problème, la limite de ça, c'est quand on va s'accrocher à ça pendant des mois, voire des années, et ne pas quitter ce fonctionnement, quand bien même il aurait montré ses limites. En fait, c'est juste ça, quoi.
J'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport aux sprints qui peuvent durer 2 semaines, moins ou plus. En quoi, pour toi, c'est un non-sens de dire, aujourd'hui, l'équipe a une vélocité de, bon, je prends un exemple bateau, 80 points, par exemple, par sprint de 2 semaines. Mmh. En quoi, pour toi, c'est un non-sens de dire, bah, tous les 2 semaines, je sais que je suis capable de livrer 80 points, donc je pars sur ce rythme-là. Et donc, je prédis que pour les 2 prochaines semaines, je suis capable de faire X features, par exemple.
Alors, en fait, pour moi, c'est pas vraiment un non-sens. Je veux dire, la question, c'est quelle est la validité scientifique de cette approche-là? C'est-à-dire que y a plusieurs questions dans ta question. La première question, c'est les points de vélocité et de complexité. La deuxième question, c'est les sprints. La première remarque, c'est que les points de vélocité et de complexité n'apparaissent pas dans le Scrum Guide. Donc, ils ne font pas partie de Scrum. Alors, vous pouvez les chercher où vous voulez. Moi, j'appelle ça de l'agilité de réseau social. Et comme souvent, je dis que les réseaux sociaux, c'est à peu près les bars PMU des temps modernes. C'est à peu près le même niveau que le bar PMU. On met en point les places des points de vélocité et de complexité qui sont pour moi vraiment un héritage des méthodes classiques. Puisqu'on n'est ni plus ni moins sur le calcul du ROI qu'on avait avant, avec la valeur créée et puis le coût, et qu'il faut à tout prix connaître le retour sur investissement pour prioriser. On pourra en parler, mais il y a d'autres méthodes pour prioriser les choses de manière beaucoup plus légère. Et donc pour moi, c'est un héritage, c'est-à-dire que quand on a toujours eu l'habitude de calculer un ROI, eh bien on se dit on va aller sur les méthodes agiles et on va continuer à calculer les méthodes, le ROI avec les points de vélocité et points de complexité. Donc déjà, c'est un héritage pour moi, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a gardé la même pratique, on a changé le nom, et on garde ça. Alors, la validité scientifique, c'est est-ce que ça fonctionne ? Il y a plein d'autres domaines dans la vie, je pense à la médecine en premier lieu, mais ne serait-ce que les entraîneurs sportifs s'appuient sur des études scientifiques pour mettre en place des plans d'entraînement auprès des sportifs de haut niveau. Et alors, nous, dans le monde informatique, la dernière fois où quelqu'un a cité une étude scientifique, j'attends. Mais pour moi, ça relève de la légende urbaine. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu, et j'interroge toujours la communauté, et personne ne m'a sorti une étude qui montre qu'une équipe est capable de déterminer la complexité via des points de complexité, et que c'est fiable et que c'est reproductible. Alors, du coup, comme on n'a pas d'études, en tout cas pas à ma connaissance à ce jour, moi je m'appuie quand je peux sur des gens qui ont collecté de la donnée. Et il faut faire très attention à cette collecte de données, parce qu'il ne faut pas que ce soit les gens qui fassent les estimations, qui fassent le débrief des estimations. Parce qu'autrement, je vous le donne en mille, elles sont toujours bonnes. Hein. C'est incroyable à quel point, quand les gens font les estimations, qu'ils débriefent, s'ils sont tout seuls à le faire. Donc il faut une tierce partie. Et j'ai eu deux retours du terrain de personnes qui avaient fait ça sur des longues périodes, donc une fois sur 2 ans et l'autre fois sur 9 mois. Et les personnes qui le faisaient sur 9 mois l'avaient fait avec donc les points de complexité et les points de vélocité. Premier constat, sur 9 mois, il n'y a aucun sprint qui a été correctement estimé avec ces méthodes-là. Voilà, c'est le premier constat. Et second constat, qui devrait beaucoup plus nous troubler, c'est qu'il n'y a aucune amélioration dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 9 mois, l'équipe n'estimait pas mieux qu'au début. C'est-à-dire que vous pouviez avoir 50% de marge d'erreur au début, puis ça descend à 4%, puis ça remonte à 200%, puis ça redescend, puis ça remonte. Et donc ça, c'est une répartition qui est celle de l'aléatoire. Et donc ça met quand même beaucoup à mal l'idée que une équipe peut apprendre à estimer. Voilà. Alors là, on pense que voilà, effectivement, plus on nage, mieux on sait nager. Plus on pratique d'un instrument de musique, plus on va progresser d'un instrument de musique. Mais est-ce que c'est vrai pour les estimations ? Est-ce que c'est une activité rationnelle ou est-ce que c'est une activité irrationnelle ? Est-ce que c'est fiable ? Et là-dessus, on ne s'appuie pas ni sur des études scientifiques, ni même sur la réalité du terrain. Donc, ça me pose un problème. Et les points de vélocité comme les points de complexité sont des estimations. Donc en fait, ils ont les travers de toutes les estimations. Le premier, c'est relativement simple, c'est le coût. C'est-à-dire que 100% du temps qui est passé à estimer, c'est du temps qui n'est pas passé à prendre en compte les besoins d'utilisateur, à développer, à tester, à livrer. Comme dirait quelqu'un d'assez célèbre, ça coûte un pognon de dingue. Déjà, il va falloir passer beaucoup de temps à estimer. Et puis après, il va falloir passer beaucoup de temps à débriefer pourquoi les estimations sont fausses, parce qu'elles sont fausses. Et puis ces estimations, on les a communiquées à l'extérieur de l'équipe. Donc il va falloir retourner vers les personnes pour leur dire que les estimations sont fausses. Et puis il va falloir refaire de nouvelles estimations. Et puis comme c'est toujours faux, alors après on fait des groupes de travail pour essayer de faire des estimations vraies. En fait, plus on estime à budget constant, moins on délivre. Donc à budget constant, plus on estime, moins on délivre. Si je prends un Scrum, j'allais dire un peu bébête, où la personne a juste lu le Scrum Guide, il va faire un sprint planning le lundi matin, pendant une demi-journée. Il va utiliser sa rétrospective au bout de 15 jours, le vendredi après-midi, pour débriefer pourquoi les estimations sont fausses. Sur 15 jours, d'accord, quoi, sur 2 semaines, du coup, il y a 10 jours travaillés. Si on prend une demi-journée pour faire les estimations et une demi-journée pour se poser la question pourquoi elles sont fausses, on a pris 10% du temps sur ces questions d'estimation. 10% de la ressource. Donc, c'est-à-dire que j'ai 10% de fonctionnalité en moins, ou si je livre les mêmes fonctionnalités, j'ai 10% de qualité en moins. Ça, c'est quand même très gênant. Et là, je suis vraiment dans la version light. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on va commencer à communiquer à l'extérieur, commencer à faire des travaux pour essayer d'améliorer la qualité des estimations, ça coûte un pognon de dingue. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la deadline, que ça soit fixé par des points de vélocité, que ça soit la fin d'un sprint, ou que ça soit fixé par un chef de projet, c'est la plus grosse génératrice de bugs. C'est-à-dire qu'en fait, pour te dire la deadline, bah c'est simple, il suffit de faire un compromis sur la qualité. Et donc, plus il y a de pression sur la deadline, plus on va livrer des bugs. Et d'ailleurs, souvent, on se demande s'il n'y a pas plus de bugs de livrer que de fonctionnalités, entre nous. Ça, c'est un deuxième aspect. Donc, on va avoir le premier, c'est les coûts qui sont amenés par les estimations. Le deuxième, c'est la non-qualité. Et le troisième, est beaucoup plus subtil, c'est le manque de réactivité. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire qu'on se dit, si on fait un planning, surtout que la notion de sprint, on pourrait revenir sur ce mot qui est très mal choisi, mais la notion de sprint, on se focalise sur un seul objectif. Mais qu'est-ce qui va se passer si pendant les 15 jours d'un sprint, partons du principe que ça dure 2 semaines, quelqu'un vient avec une demande? Ben on va lui dire, maintenant, on est engagé dans ce sprint, tu ne peux pas nous perturber. Et donc, en fait, notre réactivité dépend de la durée des plannings qu'on a fait. Si j'ai planifié des choses pendant 1 an, je ne peux pas être réactif pendant 1 an. Si j'ai planifié pendant 6 mois, je ne peux pas être réactif pendant 6 mois. Mais si j'ai planifié pendant 15 jours, je ne peux pas prendre une demande, donc je suis rigide pendant 15 jours. Alors, Scrum est merveilleux parce que avant, où les utilisateurs avaient un mot à dire tous les 2 ans, bah, ils ont leur mot à dire tous les 15 jours. Mais dans un fonctionnement sans estimation, on arrive tous les jours libre de tout engagement, on n'en a pris aucun, donc quand quelque chose tombe, on peut le commencer immédiatement. Et donc quand je vais arrêter de faire des estimations, je vais avoir 3 avantages incroyables, les coûts vont diminuer, la qualité va s'élever et la réactivité va exploser. C'est très exactement ce que nous demandent tous nos clients et toutes nos directions. Mais ils veulent en plus des estimations, et ça on ne peut pas leur fournir. Et puis il y a d'autres inconvénients, notamment sur la motivation. On nous dit que faire des estimations, ça motive les gens. Alors le petit jeune qui sort de l'école, oui, mais des gens qui ont ton âge et qui ont déjà un certain vécu et qui commencent à se poser beaucoup de questions, et encore plus des gens encore plus âgés, qu'on fait le tour du bocal, et qui savent que c'est irrationnel, que ça sert à rien. Voilà. Et puis la dernière chose quand même, et qui me semble extrêmement importante, c'est que les utilisateurs ne vont pas voir les roadmaps. Alors ça, on peut en faire la démonstration, mais si on pense aux logiciels qu'on utilise tous les jours, que ce soit ceux qu'on adore ou ceux qu'on déteste, on ne va jamais voir les roadmaps. Donc les utilisateurs ne vont pas voir les roadmaps. Donc en fait, les estimations, on ne les fait pas pour les utilisateurs. C'est vraiment c'est un truc nombriliste qui est fait pour les équipes de dev, pour eux, pour leur hiérarchie, pour des intermédiaires, etc., mais pas pour les utilisateurs finaux. Donc en fait, c'est un truc qui coûte très cher, qui nuit à la qualité, qui flingue la réactivité, qui démotive les personnes et qui n'a aucune valeur ajoutée pour les utilisateurs. Mais aucune. C'est fou de penser que, par exemple, si tu as un logiciel que tu dois utiliser, que tu n'aimes pas du tout l'utiliser, de penser que parce que on va livrer une fonctionnalité dont la personne n'a pas besoin à la date à laquelle on l'a dit, ça va faire que l'utilisateur va adhérer, mais pas du tout. le respect d'un quelconque planning, les utilisateurs n'ont rien à faire. D'ailleurs, les fonctionnalités qu'on utilise tous les jours, on ne sait même pas quand est-ce qu'on les a livrées. La seule chose qui apporte de la satisfaction aux utilisateurs, c'est des fonctionnalités qui correspondent à leurs besoins. Et à chaque fois qu'on va se focaliser sur la prédiction du futur, on quitte cet objectif, parler aux utilisateurs, développer, tester, livrer. Et c'est ça qui crée de la valeur. Toute la prédiction du futur est une perte de temps.
Ouais, je me retrouve beaucoup dans tout ce que tu as décrit par rapport à l'utilisation de Scrum au sein des entreprises. J'ai moi-même fait l'expérience là récemment sur l'utilisation des estimations, des sprints, etc. Je me suis posé beaucoup de questions, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et on a décidé, nous, d'arrêter les estimations. Parce que j'ai fait les mêmes remarques que toi, je me suis dit, donc on fait des estimations, au bout de 2 semaines, on ne respecte pas ces estimations, Pourquoi? Parce que bah, nous, en fait, ce qu'on faisait, c'est que les demandes urgentes des clients ou autres, bah, on les prenait en compte dans le sprint. Donc, on allait même au-delà du Scrum Guide. On disait, bah, on bloquait pas notre sprint pour les demandes urgentes. Donc, ce qui fait que forcément, on décalait tout, puisqu'on on avait prévu 80 points. Prendre une demande urgente, ça coûtait X points en plus. Et donc, on arrive à la fin du sprint, au bout de deux semaines, on se disait, bon, bah, on a décalé parce qu'on a dû prendre en compte des demandes urgentes. Et le constat qui m'a fait un peu, où j'ai eu le déclic, c'est de dire, bon, bah, c'est pas grave, on reporte sur le sprint suivant.
Oui.
Et donc, je me suis dit, mais à quoi ça sert tout ça? Je me suis
dit, rien.
À strictement rien, en effet.
Ça sert à rien. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est du management par la peur. C'est-à-dire qu'on se dit, s'il n'y a pas de bâton, eh bien, les gens ne vont pas travailler. Alors, je ne dis pas qu'il faut des sources de motivation, mais ce n'est peut-être pas la bonne source de motivation. On pourrait peut-être parler après, à mon sens, des autres sources de motivation qu'on peut créer. Et effectivement, comme on est toujours dans des entreprises bienveillantes, on reporte le truc d'après. Et puis, le truc d'après, on va remettre un sprint. Et puis ça va de nouveau décaler, et c'est ce que je disais, avec un petit jeune qui sort de l'école, il peut y croire pendant 6 mois, 1 an, mais dès que les gens ont de l'expérience, ils s'aperçoivent que c'est complètement absurde, et donc ce qui était censé motiver commence à démotiver les personnes. Et puis dans ce que tu évoquais, c'est vrai qu'en tant qu'équipe de dev, on se dit souvent, c'est parce qu'il y a eu des choses non prévues qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas tenu nos engagements et nos estimations. Mais en fait, je vais plus loin, c'est que je pense que même sans aucun imprévu, on n'est pas capable de prédire le temps que ça va prendre. Et donc, la nature foncièrement imprédictible du développement logiciel, qui est logique quand on a compris un peu la nature de ce que c'est, le développement logiciel, c'est de la R&D. Il suffit de voir un développeur, il écrit une ligne de code, ça ne marche pas. Alors, il la change, ça ne marche pas. Il la change, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que ça tombe en marche. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui relève de l'essai-erreur. On n'est pas du tout dans des processus industriels, on est vraiment dans quelque chose qui est de la conception et de la création. Il faut regarder un peu les profils qu'on emploie. On va plutôt chercher des gens qui ont fait des études supérieures, qui cogitent bien, etc., qui sont souvent passionnés. On n'est pas du tout dans un travail reproductible où il y a un process à suivre et on ne fait que reproduire la même pièce à l'identique. On est vraiment dans la conception et la création de quelque chose de nouveau, donc dans quelque chose qui est imprédictible. Mais ça serait très logique dans d'autres domaines. Si par exemple demain tu vois un chercheur qui dit dans 5 ans on a découvert le vaccin contre le cancer, tu vas pas y croire une seule seconde. Tu vas te dire soit il l'a découvert maintenant, soit il sait pas quand est-ce qu'il va le découvrir. Je veux dire, peut-être qu'il l'aura découvert, mais il ne peut pas savoir ce qu'il aura découvert dans 5 ans. Et donc ça, c'est des choses qui nous paraissent logiques quand on est dans une culture R&D. Mais l'incompréhension de la nature profonde du développement logiciel qui s'apparente à de la conception de quelque chose de nouveau fait que on pense que c'est quelque chose qui est prédictible. Ce ne l'est pas. Forcément, les arguments vont toujours être du style « oui, mais on a déjà fait quelque chose comme ça, ça s'approche de quelque chose qu'on a fait comme ça ». Alors, je précise quand même que 100% des logiciels qu'on développe, c'est toujours la première fois qu'on les développe. Parce que autrement, on les installerait. Je veux dire, si on développe quelque chose, c'est qu'il n'existe pas. Autrement, même une simple librairie, on ne va pas la développer. On la prend, on l'installe, ça prend 10 minutes. Et donc, 100% de ce qu'on développe, c'est toujours la première fois qu'on le développe. Autrement, on l'installe. Donc, il n'y a pas quelque chose de reproductible. Les installations, c'est un processus reproductible. Si j'installe un logiciel, je peux mesurer combien de temps je me fais, puis je peux avoir des durées moyennes et je peux avoir une prédiction. Sur le développement de logiciels, c'est de la conception, c'est de la même nature que de la R&D, pour ne pas dire c'est de la R&D, et donc ce n'est pas prédictible.
Et en plus, on n'a pas parlé de tous les aléas possibles, on n'a pas parlé du turnover incessant, on n'a pas parlé des congés, des arrêts maladie, enfin, le fait que l'équipe elle bouge, elle vit. Et forcément, oui. Bah, d'un sprint à l'autre, on peut se retrouver à 80 points, 40 points, 100 points. Enfin, ça peut évoluer à chaque sprint.
Et oui, alors ça peut évoluer à chaque sprint, mais une fois de plus, je pense qu'on se cache derrière ça. Mais une fois de plus, je pense qu'une équipe stable, voilà, qui se connaît, je la mets au défi de prédire ce qui sera prêt dans 15 jours. C'est-à-dire même sans aucune interruption. C'est-à-dire qu'ils ont tous les entrants, etc. Je le mets au défi. La nature même du développement logiciel, plus toutes les incertitudes que tu évoques, Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commence à aller vers l'agilité parce qu'on comprend que le monde est imprédictible, émergent, ça change en permanence, il y a du turnover, il y a des personnes qui partent, etc. Alors après, on va nous dire qu'il va falloir prédire le futur. Il faut prédire les personnes qui partent. Alors, aller prédire un accouchement, comme je, voilà. Aller prédire quelqu'un qui est malade contre la grippe. Aller prédire quelqu'un où il y a un clash entre deux personnes dans une équipe et du coup, ben, il y a un froid qui fait que tout se fige. Non, le futur n'est pas prédictible. Le futur n'est foncièrement pas prédictible. Et donc, il faut apprendre à agir dans l'incertitude.
Ouais, comme je disais tout à l'heure, nous, on a arrêté les estimations, sauf qu'on n'a pas remplacé ces estimations par quelque chose de concret.
Oui.
Et c'est en lisant un peu, en voyant tes interventions, que j'ai vu qu'il y avait le no estimate qui est là. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce mouvement qui est le no estimate ?
Alors, effectivement, faut le préciser, je vais le dire tout de suite, le no estimate, c'est pas une méthode. À l'origine, c'est un mot-clé sur Twitter qui nous disait « arrêtons les estimations », grosso modo. Voilà, c'était assez radical. Alors depuis, ça me fait toujours sourire parce que quand je parle de déformation, alors j'ai vu des oui, le non-estimate, ça veut pas dire qu'on n'estime pas. Ben, je pense que si. ou alors le no-estimate, c'est not only estimate. Non, je pense que c'est no-estimate, vraiment. C'est-à-dire arrêtons les estimations. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire que c'est des gens qui constatent que les estimations sont nuisibles, c'est un peu le constat qu'on fait depuis le début, mais encore faut-il construire quelque chose en lieu et place des estimations. Et quand on essaye de faire un distinguo en disant il y aurait l'agilité d'un côté, il y aurait le non-estimate de l'autre, pour moi je réunis, c'est-à-dire pour moi on revient aux fondamentaux de l'agilité. Je rappelle quand même que dans les principes fondateurs du manifeste agile, il y a l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Que le monde complexe, que le monde émergent, que agir dans l'incertitude, c'est des notions qui sont éminemment agiles. Donc moi, je ne vois pas trop de différence. Et que forcément, l'intérêt du non-estimate, c'est... alors certains vont lui reprocher sa radicalité. Souvent, quand on vous dit ça, c'est pour vous discriminer. Hein. C'est pour vous dire, non, mais il est radical. Mais radical, c'est-à-dire qu'il revient à la racine des choses. Et j'aime bien cette idée de revenir à la racine de l'agilité. L'intérêt de ça, c'est de se dire, ok, si on s'interdit de faire des estimations, comment est-ce qu'on va prioriser? Comment est-ce qu'on va concevoir techniquement? Qu'est-ce qu'on va avoir comme indicateur à mettre en avant? Quelle va être la source de motivation des personnes? Comment est-ce qu'on va donner de la visibilité? Comment est-ce qu'on va contractualiser? Comment est-ce qu'on va vendre? Et toutes les autres questions. Puisque aujourd'hui, les estimations, c'est un peu la peau de Merlin Pimpin dans nos métiers. C'est-à-dire qu'on a un problème, on fait un planning. D'accord ? Donc, pour contractualiser, on fait des plannings. Pour vendre, on fait des plannings, on fait des estimations. Pour prioriser, on fait des estimations. Alors, estimation de la complexité, estimation de la valeur, voilà. Bon, ça me fait doucement sourire. Je précise quand même que quand on prétend qu'on est capable d'estimer la valeur produite pour les utilisateurs, ça sous-entend qu'on prétend qu'on connaît la réception d'une fonctionnalité par les utilisateurs. C'est-à-dire quand on va la livrer, on sait comment les utilisateurs vont réagir. Bon, bah, il suffit d'aller sur le terrain. À chaque fois qu'on livre, c'est une immense surprise. Même en ayant fait des bêta-tests, etc., on s'aperçoit qu'il y a des utilisateurs qui adorent une fonctionnalité ou qui la rejettent ou qu'elle est clivante. C'est-à-dire qu'une partie l'adore ou une partie la rejette ou une partie l'utilise d'une manière qui n'était pas du tout envisagée par les développeurs. Et donc, en fait, c'est toujours plein de surprises. Et donc, en fait, si on a des surprises quand on livre, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas prédire la valeur. Et d'ailleurs, je suis toujours aussi surpris par le nombre de personnes qui font des estimations de valeur sans jamais être capable de la mesurer a posteriori. Ce qui est confortable, hein, puisque dans ce cas-là, elles ne sont jamais mises en cause. Mesurer la valeur d'une fonctionnalité livrée, il y a des choses directes. Est-ce qu'on a fait gagner du temps, etc. Mais il y a plein d'éléments indirects. Est-ce que ça a permis de libérer du temps d'une personne qui va aller aider un collègue? Est-ce que ça améliore l'expérience utilisateur? Est-ce que ça améliore l'image de marque? Il y a plein d'effets secondaires qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, pour en revenir à la question, arrêter les estimations, c'est probablement aller dans le mur. Bon, les continuer aussi. Hein. Donc en fait, il va falloir inventer des alternatives. Et j'ai plein de retours, parce que comme j'ai donné la conférence, des gens ont dit « Ah, on a arrêté les estimations, ça n'a pas marché, donc c'est bien la preuve que le non-estimate, ça n'a pas marché. » Et alors, étant un peu taquin, je leur dis, mais vous avez fait quoi en lieu et place? Qu'est-ce que vous avez mis en lieu et place? Et souvent, on ne s'aperçoit pas grand-chose. Alors, si on veut se donner quelques axes, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas tous les citer, hein, parce qu'il y en a pour deux jours si on veut vraiment approfondir la question et développer toutes les alternatives. Mais par exemple, quelques axes. On nous parle souvent d'indicateurs. Donc, donc les points de vélocité, les points de complexité, combien de pourcentage on a rempli, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indicateur si on n'a pas cela? Eh bien, le premier, ça serait de mesurer la satisfaction des utilisateurs. Ça, c'est un indicateur qui me semble extrêmement intéressant. Ça veut dire que déjà, il faut connaître ses utilisateurs. Dans certains cas, c'est évident, dans certains contextes, les équipes ne connaissent pas leurs utilisateurs. Il faut pouvoir leur parler. Dans certains contextes, c'est évident, dans certains contextes, on ne peut pas, ou on a l'interdiction de parler aux utilisateurs, donc on a un problème. Et puis après, il va falloir mesurer ça. Et si nos utilisateurs ne sont pas satisfaits, qu'est-ce qui ferait qu'ils seraient satisfaits? Et là, ils vont peut-être nous faire des retours, des feedbacks, qui vont alimenter ce qu'on pourrait appeler un backlog. Et donc là, bizarrement, on a quand même quelque chose qui est quand même très proche de l'agilité, se rapprocher des utilisateurs, co-construire, leur parler en direct, recueillir ce dont ils ont besoin. Et donc là, on pourrait déjà substituer des indicateurs prédictifs par un indicateur de satisfaction utilisateur. Il y a un deuxième indicateur qu'on pourrait remonter, c'est la fréquence de livraison. C'est toujours extrêmement troublant de voir des équipes dites agiles qui livrent une fois par an. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour recueillir rapidement du feedback d'utilisateurs quand on livre une fois par an. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à un changement quand on livre une fois par an. C'est-à-dire que vous livrez, et puis vous vous engagez sur un an de travail, et puis vous avez une évolution juridique qui tombe, bah, il faudra attendre non pas la prochaine fois, mais la fois d'après, c'est-à-dire plus d'un an pour vous adapter au changement. Bon, bah, y a un moment, il y a un lien très fort entre la fréquence de livraison et notre capacité à nous adapter au changement. Il y a plein de vertus aussi à livrer plus souvent, mais ça, c'est un deuxième indicateur. Et puis, le troisième indicateur, ça pourrait être finalement le bien-être ou la satisfaction de l'équipe. Alors, dit comme ça, c'est un peu compliqué parce que les gens vont, quand je veux dire, un peu sentir le piège ou ils vont essayer peut-être de manipuler cet indicateur. Alors, il y a quelque chose qui est très connu, c'est le est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un d'autre de rejoindre l'équipe? Et donc ça, c'est une manière de voir les personnes, on sait que cet indicateur il est plutôt fiable, en fait, les marques l'utilisent. Hein. Est-ce que vous recommanderiez notre marque ou l'expérience que vous avez vécue à quelqu'un d'autre? Et voilà. Donc là, on a trois indicateurs qui ne sont pas des indicateurs prédictifs. Et ce sont trois indicateurs qui vont faciliter la transformation. C'est-à-dire que je vais me rapprocher de mes utilisateurs, je vais livrer plus fréquemment et on va essayer de faire en sorte que l'équipe se porte bien. Je n'ai jamais vu un super succès en termes de produits avec des gens qui se tiraient dans les pattes, ou des gens qui étaient malheureux, ou des gens qui étaient démotivés. Donc il y a un moment, il faut que les gens se portent bien. Et là, si on a ces trois indicateurs-là, on a un vrai changement culturel. Alors je prends l'exemple des indicateurs, on pourrait parler de la priorisation, on pourrait parler de la vente, mais il va falloir tout réinventer. Et le fait de réinventer toutes nos pratiques, qui ne soient plus des pratiques prédictives, mais des pratiques adaptatives, on pourrait appeler ça une transformation agile. Et c'est pour ça que, pour moi, je ne fais pas de distinction entre l'arrêt des estimations et l'agilité, et je ne m'oppose pas non plus à Scrum. C'est-à-dire que je pense que Scrum, comme je l'ai dit, est un super cadre quand on arrive dans un contexte avec des gens qui sont vraiment l'habitude du process, qui ont la besoin de choses très cadrées, de choses très simples à comprendre, très accessibles. Et donc, si on arrive dans une équipe qui fait du cycle en V, peut-être que Scrum, c'est une bonne manière de l'amener, surtout si l'accompagnement agile, c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien, qu'il est capable de présenter de manière attrayante. Voilà, donc commençons par du Scrum, mais Scrum est probablement le début du voyage et probablement pas la fin. Et donc, après avoir commencé à avoir fait du Scrum, à un moment, on tombe sur les constats que tu as pu faire et on se dit, mais peut-être qu'on pourrait transcender Scrum et aller plus loin. Et d'ailleurs, je m'interroge, si on a une rétrospective dans Scrum qui normalement permet à l'équipe d'adapter son fonctionnement, peut-être que Scrum va se dissoudre dans Scrum. Donc peut-être que l'aboutissement de Scrum, ça serait un moment de passer outre Scrum et d'avoir quelque chose qui soit finalement, qui émane un peu plus de l'équipe.
Ouais, donc moi, en effet, je me suis rendu compte que les estimations, que Scrum, enfin qu'il y avait des dérives. Comment moi, en tant qu'ingénieur informatique, je peux faire pour peut-être pas aller tout de suite au no estimate, mais peut-être étape par étape, sortir un peu du contexte Scrum qui a dérivé selon moi et arriver à quelque chose qui ressemblerait au no estimate. Est-ce qu'il y a des étapes possibles ?
Alors déjà, merci pour ta question, parce que la plupart des personnes se disent on me demande des estimations, les autres sont en tort de me demander des estimations, quel argument je peux trouver pour qu'ils arrêtent de me demander des estimations. Et ça, je pense que c'est une voie sans issue, parce que les personnes en face de nous, s'ils le demandent, c'est qu'ils ont toujours réfléchi comme ça, et sortir de ce cadre-là, ça va être très compliqué, surtout qu'il y a souvent beaucoup de défiance derrière tout ça, et donc le développeur qui vient en disant « moi je veux arrêter de faire des estimations », la personne en face va lui dire « lui il veut arrêter de travailler ». Le raccourci est à peu près là, mais il est à peu près systématique. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? La première chose, ça va être d'apporter de la visibilité, puisque c'est ce qu'on demande avec les estimations. Et derrière cette visibilité, c'est savoir où est-ce qu'on en est. Et ça, c'est très légitime. C'est-à-dire que je pense qu'un financeur, une direction, un client, des utilisateurs peuvent vouloir savoir où est-ce qu'on en est. Et on doit cette transparence d'où est-ce qu'on en est. Et la deuxième chose derrière cette visibilité, c'est l'implication, prouver qu'on est impliqué. Alors je sais que dans la communauté agile, on dit souvent que tous les salariés sont des pauvres petites victimes de managers et de directeurs incompétents. Quand on va sur le terrain, la situation est beaucoup plus nuancée. Hein. C'est-à-dire que parfois, on tombe sur des équipes ou des individus qui effectivement ne sont pas très impliqués. Et donc en fait, il va falloir apporter cette visibilité. Comment est-ce qu'on peut apporter de la visibilité sans estimation ? Le premier constat, c'est que la visibilité apportée par les estimations, c'est un boomerang. C'est-à-dire que ça génère de la confiance au moment où on envoie l'estimation, et puis 15 jours après, on se le reprend dans le museau, et ça génère de la défiance. Donc c'est vraiment une échappatoire sur le court terme. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Le premier, c'est d'arrêter de parler en jargon technique devant des publics non techniques. Alors c'est très simple, mais en fait, si je travaille sur un site marchand, quand je parle avec mon product owner, si ce n'est pas un profil technique, ou avec le marketing, ou avec la direction, ou avec des financeurs, je ne parle pas de base de données, je ne parle pas de classe, je ne parle pas d'API, je ne parle pas de tout ça, je parle de la fonctionnalité qui va permettre d'optimiser le système de fidélité. Et donc en fait, déjà en tant que développeur, ce que je peux faire, c'est quand je suis dans mon équipe technique, on parle technique, et voilà, et on a des gens passionnés, c'est un métier complexe, et c'est normal de réfléchir sur l'aspect technique. Mais quand je parle à l'extérieur de mon équipe, eh bien déjà, je peux m'adapter à mon public et parler uniquement en termes métier. C'est-à-dire que normalement, je comprends ce que je suis en train de développer, et donc quand je communique à l'extérieur. Donc déjà, on va apporter beaucoup de visibilité rien qu'en s'exprimant. Donc ça, c'est un effort qu'on a à faire, nous. Le deuxième point, qui va être... Alors celui-là, il est relativement simple à faire, mais c'est un effort qu'on doit faire de manière tous ensemble dans une population technique. Ne plus parler technique dès qu'on n'est plus en face de public technique. Apprendre à vulgariser. Voilà. Le deuxième point qui va être le plus important, c'est de livrer souvent. Parce que quand je livre, j'apporte une visibilité incroyable. Mais incroyable, je veux dire, le truc est livré, il n'y a plus d'incertitude, quand est-ce que ça va être livré, c'est livré. Et donc plus je vais livrer souvent, plus je vais générer de la confiance, et une équipe qui livre tous les jours, parce que oui, ça existe, une équipe qui livre tous les jours, le différentiel entre ce qui est en cours et ce qui est en prod est d'une journée, donc il y a quelques heures de travail. Une équipe, donc l'incertitude est de quelques heures. Une équipe qui livre une fois par an, l'incertitude est d'un an de travail. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est prêt ? Bon, on ne sait pas. Alors, on fait des plannings, on fait du reporting, on fait des graphes, mais dans les faits, est-ce que ça va arriver en prod ? Est-ce que ça va bien marcher ? On ne sait pas. Et donc, le deuxième point, ça va être de livrer plus souvent. Et ce livrer plus souvent, il va passer par du découpage. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans une équipe de développement, si on veut sortir des estimations ? Ça veut dire de découper très finement, de livrer le plus vite possible. Et si je ne peux pas livrer, j'ai un ersatz de livraison qui s'appelle la démonstration. La démonstration, c'est la livraison du pauvre. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas les moyens de livrer parce que contrainte, parce que ceci, parce que cela. Alors, je fais une démonstration. Donc, voilà, il y a au moins ces axes-là. Je parle uniquement langage métier. Je découpe très très fin, je livre dès que possible et je mets toute mon énergie pour livrer le plus petit et le plus souvent possible. Et si je ne peux pas livrer, je démontre. Et déjà là, on va apporter un niveau de visibilité qui va générer de la confiance, qui fait que normalement les estimations devront se tarir un peu.
Je vais mettre à la place d'un client, donc imagine dans cette situation-là où tu livres assez régulièrement, tu as un client qui vient, qui te dit bah « moi, j'ai besoin d'avoir la possibilité de renommer un document, donc je veux cette fonctionnalité » et te demande « quand est-ce que je l'aurai ?» Qu'est-ce que toi, tu réponds à ce client ?
Alors, très basiquement, je vais lui répondre qu'il y a des incertitudes, puisque il suffit d'avoir parlé avec lui parce qu'il a toujours une question qui se pose lui-même, il y a plusieurs manières de faire, donc je vais lui présenter les incertitudes. Mais en fait, quand il dit quand est-ce que je vais l'avoir, faut bien comprendre la question, il veut justement ne pas se faire avoir, il veut pas se faire prendre, et il veut pas qu'on aille dormir ou paresser sur sa demande, il veut qu'on la prenne en compte. Et donc je vais dire bah, il y a telle et telle incertitude, donc aujourd'hui je peux pas vous dire. Pour être franc, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça sera prêt. Par contre, je peux revenir vers vous la semaine prochaine et vous démontrer où est-ce qu'on en est. Et donc, en fait, je vais troquer cette visibilité prédictive qui est toujours fausse, c'est ce fameux boomerang qui va nous revenir, par quelque chose où je vais revenir vers lui. Alors, vous allez me dire, mais comment tu peux t'engager à revenir la semaine prochaine ? Voilà. Et bien, très simplement, parce que je n'ai jamais pris d'engagement par le passé. Donc, en fait, je ne lui dis pas que ça sera prêt la semaine prochaine, je lui dis qu'on va lui présenter l'avancée des travaux la semaine prochaine. Et donc, on fait ça. J'ai déjà raconté cette petite anecdote, mais on avait travaillé avec un client, et au bout d'un an, il avait fait un débrief. Il nous avait fait un débrief à toute l'équipe de dev, et il avait dit oh, « je suis très content, bon relationnel, bonne qualité, réactivité et tout ». Et dans ses compliments, il avait dit « vous respectez toujours les délais ». Et nous, on avait éclaté de rire, parce qu'en fait, on n'avait jamais, on ne faisait jamais de planning, donc on ne lui avait jamais donné un délai. Et lui était convaincu qu'on respectait les plannings. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme on n'avait aucun planning, quand il nous demandait quelque chose, et que c'était le truc prioritaire, on le commençait tout de suite. Le gros avantage de ne pas faire d'estimation, c'est que tu commences immédiatement. C'est-à-dire que tu n'es pas... embarqué, tu n'es pas, t'as pas un boulet au pied qui est des engagements passés, donc tu es libre de tout engagement, donc tu commences tout de suite. Et donc, il nous demandait quelque chose, on commençait immédiatement, et donc très vite, on venait vers lui, il nous faisait des retours, et puis très vite, ça allait en prod, et lui, il avait une réactivité qu'il trouvait fabuleuse. Et donc, il nous a dit, vous respectez toujours vos délais, vos engagements, quand bien même on lui en annonçait jamais, parce qu'il y avait une confusion dans son esprit entre respecter des engagements et être réactif. Et c'est là où on peut jouer, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit réactif plutôt que de donner de la visibilité par une prédiction du futur. On va donner une visibilité en disant bah, « je reviens vers toi la semaine prochaine et on va te démontrer ça et tu nous feras des retours. » Et puis on le fera évoluer autant de fois que tu le désireras.
Donc concrètement, vous avez un backlog priorisé et l'équipe dépile en fonction des priorités toutes les features à délivrer.
Ah oui, alors je le précise, hein, s'il y a des deadlines dans un backlog, ça s'appelle un planning. Hein. C'est pas parce que le truc est présenté de haut en bas et qu'il est plus présenté de gauche à droite. Si c'est des éléments qui ont une date dedans, c'est un planning. Et en fait, le backlog n'est pas une projection du futur. Normalement, le backlog, c'est un process qui nous dit ce qu'on doit faire aujourd'hui. Le planning, c'est quand même la liste de tout ce qu'on est sûr de ne pas faire aujourd'hui. C'est ça un planning. Donc en fait, c'est vraiment ce qui ne nous intéresse pas. Le planning, c'est vraiment ce qui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et le backlog, normalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit qu'un backlog, c'est prisé. Bah oui, c'est le but d'un backlog, c'est un système d'écrémage. Le but, c'est que ressorte en haut le truc le plus important. On pourrait se poser la question, comment est-ce qu'on priorise si on ne fait pas d'estimation? Mais du coup, c'est de ressortir le truc le plus important qu'on va faire maintenant. Et donc, du coup, le reste du backlog ne m'intéresse pas du tout, puisque ce n'est pas une vision du futur, le backlog. C'est un process qui me permet de savoir ce que je vais faire maintenant. Une fois que j'ai la fonctionnalité que je dois développer maintenant, je n'ai plus besoin de mon backlog. Voilà.
Et comment tu priorises ça en discutant avec le client? J'imagine en questionnant le client, et le client te dit, bah moi, ce qui est plus prioritaire, c'est cette feature-là plutôt que celle-ci.
C'est ça.
Okay.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que prioriser avec les points de complexité et les points de vélocité, ça présage qu'on est capable de prédire la valeur et ça présage qu'on est capable de prédire la complexité. Ces deux affirmations sont fausses. Et donc, quand on va faire la division des deux, bah, on va avoir un retour sur investissement faux. Et puis après, on va comparer les retours sur investissement faux de toutes les fonctionnalités pour savoir laquelle on va faire. Et on va livrer un truc que les utilisateurs n'attendaient pas du tout. Voilà. Bon. Et donc, effectivement, la solution que tu évoques, c'est la plus simple. Et c'est pour ça que pour moi, la question de la valeur se pose peu. J'imagine difficilement qu'on aille livrer une fonctionnalité qui a une valeur incroyable alors que les utilisateurs ne l'attendent pas du tout et qu'ils ne vont pas l'utiliser. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut livrer en premier? Ce que les utilisateurs attendent le premier. Et ça tombe bien parce que quand on va avoir des utilisateurs, un petit groupe d'utilisateurs qu'on fait un atelier, on peut facilement avoir des dizaines, voire plus de 100 fonctionnalités qui vont émerger. Donc on peut avoir un backlog finalement très conséquent, c'est-à-dire un réservoir à idées qui n'est pas du tout priorisé. Et on leur dit, bah, lesquelles vous voulez voir les premières arrivées? Bah, celle-là, celle-là, celle-là. Bah, ok, bon, on va commencer par celle-là. La priorisation est terminée. Ça prend 10 secondes, c'est léger, c'est agile. On a parlé directement avec nos utilisateurs. Une fois de plus, qu'est-ce qu'on irait livrer de prioritaire qui ne serait pas attendu par les utilisateurs? Ouais, une vraie question.
Je sais, Frédéric, que tu fais des formations sur le No Estimate.
Oui.
Quelles sont les prochaines dates?
Alors, il y en a une qui est très prochainement, le 6 février. Je ne sais pas si le podcast sera diffusé à ce moment-là. On a encore quelques dates de disponibles. La prochaine n'est pas encore fixée comme date. Après, il suffit de suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bah, vous pouvez suivre Frédéric Le Guédois, vous pouvez suivre Ex Novo aussi, que ce soit sur LinkedIn et Twitter, et on annonce les dates de formation.
Merci beaucoup Frédéric d'être venu à notre micro.
Ben merci à toi.
Excellente journée, merci beaucoup.
Bonne journée.
Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.